Isabelle, donc, dites-nous tout ou presque sur les huiles québécoises.
Oui, alors, c'est ça, je vais vous parler de cette chronique d'Isabelle Huot, nutritionniste, dans le Journal de Montréal, le 28 novembre 2022. Le titre de cette chronique, c'est « Les avantages de miser sur des huiles québécoises ». Hein, parce que si vous avez déjà acheté de l'huile, personne n'a dit.
On a déjà acheté.
Mais il y en a vraiment beaucoup de variétés et on se fait souvent dire que l'huile d'olive, ben, c'est la meilleure pour la santé, la fameuse huile d'olive extra vierge. Mais évidemment, à moins d'habiter en Colombie-Britannique, ce serait surprenant que vous ayez de l'huile d'olive locale au Canada. Et donc, Mme Mott a décidé de nous parler des différentes huiles qui sont québécoises, mais qui sont aussi vraiment bonnes pour la santé. Alors, on commence par les graines et huiles de caméline. Est-ce que vous connaissiez la caméline?
Non, je ne connais pas.
Parce que moi, j'avoue que j'ai connu les camérises, mais la caméline, je ne connaissais pas ça.
C'est un joli mot.
Et puis, au Québec, oui, c'est ça, on la connaît depuis quelques années seulement, mais sa culture est très ancienne. Elle est issue d'une plante oléagineuse de la famille des crucifères, ou les brassicacées, si on veut le nom plus scientifique, donc crucifères, comme les choux-fleurs, les choux, les brocolis, tout ça. Donc, ce sont les graines de caméline sont bien appréciées des consommateurs québécois, tout comme leur huile, apparemment. Alors, moi, je vais essayer de goûter. Moi aussi, j'ai pas eu le temps, malheureusement, avant cette chronique-là.
Ça s'écrit comment, Isabelle, caméline?
Alors, vraiment, comme ça se prononce, donc C-A-M-E, accent aigu, L-I-N-E.
Parfait. Pas de L.
Pas de L, non, un seul L. Et puis donc, c'est ça, en plus d'être apparemment délicieuses, elles ont vraiment une bonne valeur nutritive parce que les graines et l'huile de caméline sont riches en oméga-3 et en vitamine E. Avec seulement une cuillère à thé, on comble les besoins quotidiens en oméga-3 d'un humain moyen. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. Il y a même quelques essais cliniques qui ont démontré les bienfaits de l'huile de caméline sur le taux de cholestérol LDL, le fameux mauvais cholestérol. Elle a aussi, ce qui est vraiment très intéressant, un point de fumée élevé à 475 Fahrenheit. Donc, on peut vraiment l'utiliser autant à chaud qu'à froid. Apparemment, elle aurait des notes d'asperges et de noisettes. Ça, c'est pour l'huile vierge. Et on fait aussi de l'huile à partir de graines torréfiées. Et là, à ce moment-là, on aurait peut-être des notes d'arachide grillé et de sésame rôti. Moi, je me suis vraiment posé la question si ça serait pas une belle alternative pour l'huile de sésame grillé que j'avoue utiliser vraiment souvent parce qu'elle a un goût vraiment très spécial. Mais c'est pas très local, le sésame non plus, parce que ça pousse principalement en Afrique. Donc, peut-être une autre alternative locale, non seulement à l'huile d'olive, mais aussi à l'huile de sésame grillée. Et puis, au Québec, on doit la reconnaissance de la caméline, selon Mme Huot, au dynamisme de l'entreprise Signé Caméline. Si vous allez sur leur site, faites une petite recherche, le Signé Caméline, et puis il y a plein de produits d'huile de caméline, grillée, non grillée, tout ça.
On va faire ça.
Pour la conservation, on parle de 24 mois à température ambiante ou 30 mois pour les graines ou 30 mois pour l'huile. Donc, ça se conserve quand même assez longtemps puis pas besoin de la mettre au frigo. J'avais lu certaines sources qui disaient de la réfrigérer, mais j'ai vu plusieurs autres sources qui, tout comme Isabelle Huot, nous dit qu'on peut la conserver à température ambiante.
Oui, parce que de l'huile au réfrigérateur, souvent, ça change d'allure, d'aspect.
Bien, ça dépend, oui. Il y a certaines huiles qui deviennent, qui figent, là, comme l'huile d'olive. Mais ça, je ne sais pas pour l'huile de caméline. Il faudrait faire l'essai. Je vais en reparler.
Il faudrait faire ça. On va commencer donc, par y goûter.
Oui, c'est ça. Ensuite, on nous parle de l'huile de lin. Ça, c'est probablement plus connu. Hein, l'huile de lin, justement, pour les oméga-3, on nous recommande souvent de consommer de l'huile de lin. C'est une culture qui est aussi très ancienne. Et fait à noter, le Canada est devenu le plus grand producteur de lin au monde. Et ça représente presque 80 % du commerce mondial en graines de lin, le Canada. Donc, ça n'est pas plus local que ça.
On peut se péter les bretelles.
Oui, voilà. Elles aussi sont très intéressantes pour la santé. Donc, j'ai parlé des oméga-3, mais c'est aussi une bonne source de fibres et de lignanes, qui sont des phytoestrogènes qui ont beaucoup d'avantages pour la santé. Évidemment, on peut les ajouter à son yogourt, ses céréales, à des recettes de muffins et de biscuits. Si on l'achète pressé à froid, donc c'est ça, on a vraiment une bonne richesse en oméga-3. Et en fait, il y a 60 % des gras totaux de l'huile de lin qui sont des oméga-3. Donc, c'est vraiment l'huile la plus riche de ce type de gras.
C'est tellement bon pour la santé, l'oméga-3?
Oui, c'est ça, exactement. C'est bon pour toutes sortes de raisons, pour le cœur, pour la dépression. C'est vraiment un bon gras.
Pour la dépression ou contre la dépression?
C'est bon pour traiter la dépression.
Il faudrait demander à notre médecin quand même, hein, mais... C'est prouvé?
En fait, c'est un médecin qui me l'avait prescrit pour le moral. Ouais, peut-être si vous avez vraiment une dépression diagnostiquée, là, c'est pas suffisant, mais si vous êtes juste un petit peu déprimé,
ça peut aider.
Vous pouvez commencer par utiliser, c'est ça, de l'huile de lin. Et puis, par contre, contrairement à l'huile de caméline, son point de fumée est à 225 degrés Fahrenheit. Donc, c'est vraiment pas recommandé de l'utiliser à chaud, mais plutôt comme dans des vinaigrettes ou, comme je dis, les graines, vous pouvez les ajouter à toutes sortes de recettes. Et par contre, là, on veut vraiment conserver ça au frigo. Donc, les graines non moulues jusqu'à un an et moulues un mois au frigo. Et l'huile, l'huile, par contre, on peut la conserver, mais à l'abri de la lumière et de la chaleur, donc quand même dans un endroit frais. Et puis, après ouverture de la bouteille, là, on recommande de la réfrigérer et de la consommer dans les 3 mois. Ensuite, on a les graines et l'huile de chanvre. Et si vous savez que le chanvre, c'est la même plante que le cannabis, vous pourriez avoir peur que ça contienne du THC, mais inquiétez-vous pas, le THC, qui est la composante psychotrope, est en quantité négligeable dans le chanvre,
contrairement
au cannabis. Et elles sont, ces graines, riches en protéines et en fibres. Et elles donnent un bon goût, elles aussi, au yogourt, smoothie, gruau, salade. Moi, j'en mets souvent dans ma salade. J'ai toujours un petit pot de graines de chanvre avec un petit des trous sur le dessus, là, comme une salière, mais avec des plus gros trous. Et puis, je rajoute ça dans mes salades, dans mes soupes aussi.
Ah oui.
Et elles ont aussi des oméga-3, mais aussi des oméga-6. Mais puis souvent, on a tendance à consommer trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 dans notre consommation, disons, moderne. Mais l'huile de chanvre a un bon ratio, donc 3 pour 1, qui est un ratio qui est recommandé là, par le nutritionniste.
Et ça goûte bon, l'huile de chanvre?
Bien, j'ai pas jamais goûté à l'huile. Moi, j'ai mangé des graines. Donc, il faudrait l'essayer. Par contre, elle est comme l'huile de lin, là, elle a un point de fumée très bas à 225 degrés Fahrenheit. Donc, vraiment, on l'utilise à froid, encore une fois, dans des vinaigrettes, des pestés, des choses comme ça.
OK.
Et elle se conserve 12 mois dans un endroit frais et sombre, dans un contenant hermétique et opaque, donc à l'abri de la lumière. Mais on peut la mettre au frigo, on parle des graines, on peut les mettre au frigo pour prévenir qu'elle rancisse et ça va aussi prolonger la durée de vie. Et puis, pour l'huile, ben, c'est 12 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Mais encore une fois, on réfrigère après ouverture et on consomme dans les 3 mois, tout comme l'huile de lin.
Parfait. Isabelle, je vous arrête ici, puis on poursuit après la chanson de 10 heures. De toute façon, on a beaucoup de temps avec vous, étant donné que Serge et Daniel sont absents aujourd'hui. Et on s'en va du côté de chez Isabelle, qui continue sa chronique autour des huiles québécoises. On apprend tellement de choses.
Mais puisqu'on parle de suivre le soleil, j'allais justement vous parler d'huile de tournesol, les tournesols qui ont la réputation, et en fait, c'est vrai, de suivre le soleil.
Alors, c'est-tu assez merveilleux, hein? La radio, là, produit plein de miracles.
Voilà. Et donc, le tournesol, c'est aussi une plante de type oléagineux. Et puis, évidemment, vous avez sûrement vu des magnifiques plants de tournesol. Et si vous avez eu la chance de passer devant les champs de tournesol, c'est vraiment des plantes immenses.
Ah oui, c'est spectaculaire et c'est tellement beau.
Voilà. Il y a plusieurs producteurs qui utilisent au Québec un cultivar qui produit une huile à prédominance oléique avec un contenu en gras monoinsaturé qui va dépasser 75 % les gras insaturés. Là, c'est vraiment les meilleurs gras pour la santé. Mm-hmm. Et ça se rapproche de l'huile d'olive, donc en teneur là, de monoinsaturé. Et puis, elle est aussi riche en vitamine E. Donc, on l'utilise aussi beaucoup pour les produits de beauté, le tournesol. Et son point de fumée est un petit peu plus élevé que celui de l'huile de lin et de l'huile de chanvre. Elle est à 320 degrés Fahrenheit. Donc, on peut l'utiliser à chaud, peut-être ajouter dans une sauce, des choses comme ça, mais quand même pas pour faire frire des aliments. Là. Donc, on peut quand même préférer l'utiliser à froid. Il y a vraiment plusieurs producteurs qui vendent de l'huile de tournesol au Québec. Si vous faites une recherche, vous allez en trouver facilement. Entre autres, moi, j'ai trouvé, une compagnie qui vend de l'huile. Tournevent, ils vendent. En fait, non, Tournevent ne vend pas de l'huile de tournesol, ils vendent à peu près toutes les autres huiles que je vous ai nommées. Mais il y a l'huilerie de Arôme des Champs. Puis il y a aussi celle qu'on connaît beaucoup, là, la Maison Orphée, qui vend toutes sortes d'huiles. Donc, c'est une compagnie québécoise aussi. Donc ça se conserve 3 mois en température ambiante, 12 mois au réfrigérateur pour les graines de tournesol, mais vous allez les manger avant que ça fasse tout ce temps-là. C'est vraiment bon. Et ensuite, pour l'huile, on parle de 24 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et finalement, on parle de l'huile de canola, qui est vraiment aussi une huile typiquement québécoise. Donc là, l'entreprise Tournevent, entre autres, vous allez retrouver l'huile de canola. Et c'est aussi une plante de la famille des crucifères. Moi, j'avais toujours pensé que c'était une une épineuse, mais non, c'est donc aussi la famille des choux. Et puis, donc le lait canola apporte des bons gras monoinsaturés et aussi 10% d'oméga 3. Et elle a un point de fumée élevé. On peut vraiment l'utiliser là, pour à peu près n'importe quoi. Et son point de fumée est à 475 degrés. Et puis, c'est ça, on peut vraiment l'utiliser dans n'importe quoi. Elle n'a pas un goût très prononcé. Et puis, on peut la conserver là, 18 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur pour l'huile. On recommande de la réfrigérer après ouverture, mais ça, c'est sûrement pas pour les huiles commerciales. Là. C'est pour l'huile extraite maison là, par les compagnies locales. Et puis, les graines de canola, si vous en achetez, j'ai jamais vu ça, mais ça m'intrigue beaucoup. On peut aussi les conserver 18 mois à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. L'huile de canola, je m'étais toujours posé la question parce que les Français appellent ça le colza et nous, on appelle ça le canola. Et ma mère m'avait toujours dit l'huile de colza, c'est mauvais pour la santé, ça a été banni. Eh bien, savez-vous que le canola, c'est le nom qu'on donne à un cultivar de colza qui a été développé spécifiquement pour être bon pour la santé?
Bien oui, c'est surprenant.
Oui, alors, c'est ça, c'est très intéressant. Mais ça, vous pouvez tous trouver ça là, de façon locale, l'huile de canola. D'ailleurs, l'huile de canola québécoise, donc, disons, la bonne huile de canola, si on veut, elle a une couleur différente de l'huile de canola que vous allez retrouver en supermarché, là, la grosse bouteille d'huile qui ne goûte rien.
Mais moi, c'est ce que j'aime de cette huile-là, elle est neutre.
Bien, c'est ça. Moi aussi, je m'étais toujours dit ça. Puis la dernière fois que je l'ai achetée en vrac, dans mon magasin de vrac local, elle avait une couleur différente, puis je me demandais si c'était vraiment de l'huile de canola. Puis là, ben, j'ai eu la réponse en faisant ces recherches-là. Et elle a quand même un goût assez neutre, mais sa couleur est beaucoup plus intéressante. Là,
ah dorée. Oui?
Oui.
Ah, je ne sais pas. Moi, je ne trouve pas qu'elle a une couleur repoussante. Ou quand vous parlez de couleur intéressante, je ne comprends pas vraiment.
Non, mais moi, je ne sais pas. Par exemple, quand je bois de la bière, je me dis qu'elle a une couleur pas trop neutre. Là, quand il y a une couleur qui attire l'attention. Je ne sais pas, mais ça ne change rien pour le goût. C'est
bon,
puis
non,
de toute façon,
non.
On la mélange à autre chose, ça ne paraît plus sa couleur-là. À moins de faire une belle vinaigrette.
Mm. Mais moi, je parlais plus du goût neutre que de la couleur. Alors,
mais oui, effectivement, c'est très apprécié.
Comme dirait Denise, on enchaîne.
De l'huile de canola. Voilà. Mais c'est la fin de cette chronique d'Isabelle Huot. Et vraiment, il y a plein de bonnes raisons de consommer local. C'est bon pour la santé. Puis, profitez du chèque que vous avez reçu du gouvernement pour acheter un produit local peut-être un peu plus cher. Mais qui va être bon
pourquoi
pour votre santé
pas.
Et pour vos voisins.
Alors moi, vous m'avez vraiment donné envie de découvrir l'huile de caméline et l'huile de chanvre. On y va avec une découverte musicale. Moi, c'est Marie-France Bazot qui a proposé cette chanson de Noël hier sur Twitter, pour ne pas nommer le réseau social. Voici la chanteuse Lofey, L-A-U-F-E-Y, dans « The Christmas Waltz ». Isabelle, bien, on reste dans le thème de Noël.
Oui, on va parler de bûche.
Wow!
Alors, santé et nutrition, parce qu'on est encore en santé.
Oui.
Donc, voici les bûches de Noël qui se démarquent. Évidemment, on s'entend, ça demande du dessert, là, donc on consomme pas la bûche juste parce qu'on veut quelque chose de bon pour la santé, mais on peut quand même faire un meilleur choix. Et c'est ce que Isabelle Huot a voulu nous aider à faire, donc avec sa chronique de lundi dernier. Et c'est paru là, dans le Journal de Montréal. Et puis, c'est ça, elle commence par nous dire que la bûche de Noël, ben, c'est assurément un incontournable des tables festives pour plusieurs d'entre nous. Hein. Je connais personne qui n'a jamais mangé de bûche à Noël, au moins une fois. Et puis, ben, c'est ça, elle nous parle de plusieurs options là, qui sont disponibles sur le marché. Elle a fait des analyses au niveau des calories, des lipides, des glucides et du sodium, donc le sel. Elle a analysé 15 bûches de Noël et puis elle a uniformisé la portion à 80 grammes, ce qui revenait à soit un septième ou un neuvième d'une bûche, là, selon les variétés. Donc, elle a trouvé qu'il y avait de 130 à 340 calories par portion. Donc, ça vous voyez que ça peut faire vraiment une grosse différence. De 6 à 23 grammes de lipides, donc de gras.
Oui.
Ouais, donc, 3 à 12 grammes de gras saturés, qui sont les gras qu'on essaie d'éviter. De 15 à 58 grammes de glucides. Donc 13 à 45 grammes de sucre. Donc, encore une fois, il y a vraiment une grande palette.
D'où l'importance de bien regarder les étiquettes.
Ben
hein?
Voilà, exactement. Et puis, de 57 à 220 mg de sodium. Encore une fois, là, c'est du simple au quadruple.
Oui.
Alors, voilà. Et puis, donc, c'est ça. On commence par dire les meilleurs choix. Et puis, vous allez reconnaître le nom d'une entreprise fièrement québécoise, les bûches à la crème glacée traditionnelle et tire d'érable de Quaticook.
On la connaît, alors, celle-là. On connaît la marque, puis on connaît leur bonne crème glacée.
Voilà, et vous allez reconnaître le beau logo avec la police de caractère caractéristique de Quaticook. Alors, ces deux bûches à la crème glacée qui arrivent en première place, donc la traditionnelle et la tire d'érable, elles sont les moins riches en calories, donc 130, comme j'ai dit, le plus bas de tantôt, les moins riches en gras saturé et en sucre de tout le banc d'essai. La bûche à la crème glacée tire d'érable est même légèrement plus faible en lipides et en sodium. Et puis...
Et c'est du vrai sirop d'érable dans la tire d'érable?
Là, on ne nous le dit pas dans l'article, donc il faudra que vous alliez regarder la liste des ingrédients au magasin. Okay. Mais elle nous dit que c'est une liste, que ce sont, dans le cas des deux bûches, là, des listes d'ingrédients qui sont relativement courtes et plutôt simples par rapport aux autres options. Donc, il n'y a pas plein d'ingrédients bizarres que je vais nommer d'ailleurs pour d'autres bûches dans les mauvais choix.
Et c'est pas une bûche avec une pâte à gâteau, là, c'est vraiment de la crème glacée, là.
C'est vraiment de la crème glacée, si on voit la photo, là, principalement de la crème glacée dans la bûche. Alors, vous n'allez pas garder ça au frigo, vous allez la garder au congélateur.
Ouais.
Ensuite, on nous parle, le prochain meilleur choix, c'est la bûche végane chocolat et framboise de la cuisine de Jean-Philippe. Si vous êtes Québécois et si vous êtes végane, définitivement, vous connaissez Jean-Philippe, mais même les non-véganes commencent probablement à le connaître parce qu'il y a vraiment des belles recettes véganes et commencer une gamme de produits. Entre autres, il y a la tourtière végane. Qui est sorti, je pense, depuis l'année passée. Donc, la bûche végane chocolat et framboise, c'est tout aussi un bon choix. Elle a une teneur élevée, un petit peu plus élevée en sucre que les bûches glacées, mais elle reste quand même à 24 grammes.
Mais pourquoi on appelle ça une bûche végane quand c'est au chocolat et à la framboise?
Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de produits laitiers ni d'œuf.
OK, je comprends.
Donc, c'est un chocolat noir, probablement. Ce qui en fait un choix vraiment intéressant aussi pour les personnes qui sont allergiques aux produits laitiers ou aux œufs, mais aussi au gluten, parce qu'elle est sans gluten, certifiée sans gluten.
Ah, donc, c'est vraiment super, ça!
Donc, des choses qui sont ni lait, ni œuf, ni gluten, mais plein de goût, c'est quand même assez rare, alors il faut le souligner. Et puis, c'est ça, elle est 50% moins sucrée que la bûche la plus sucrée du banc d'essai. Donc, elle est quand même si elle est plus sucrée que les précédentes, elle est quand même un bon choix. Elle est la moins riche en calories après les autres que j'ai nommées avant. Là, elle a 190 calories par portion. Elle est aussi la moins riche en lipides. Et elle a une teneur en gras saturé inférieure à la moyenne. Et puis, comme je le disais, là, si vous êtes allergique au lait, aux œufs ou au gluten, ça ne va pas être un problème. Malheureusement, pour moi, c'est impossible parce que c'est la boisson de soya qui est utilisée pour remplacer le lait. Et si vous êtes allergique aux amandes, il y a des amandes en poudre et du beurre de cacao dans les ingrédients.
Mm-hmm.
Mais c'est aussi, encore une fois, une liste d'ingrédients intéressante par rapport aux bûches qui sont des mauvais choix. Là, on arrive au compromis. Donc, c'est pas un mauvais choix, mais c'est pas le meilleur choix. La bûche chocolat noir et sel de mer de Godiva.
Ah, mais moi, je serais prête à faire un compromis pour cette bûche de Godiva. Hein?
Oui.
C'est Godiva, c'est belge.
Oui, en fait, c'est belge, vous avez raison, donc c'est Godiva. Donc, elle est attrayante par sa teneur modérée en calories quand même, 260 calories par portion, c'est quand même raisonnable, en sucre, 19 grammes, et en sodium, 61 mg, mais c'est sa teneur en lipides qui la rend un compromis plutôt qu'un bon choix, parce qu'il y a 20 grammes de gras par portion,
ouais.
Dont 8 grammes de gras saturé quand même. Et puis, elle a une liste d'ingrédients qui est moins intéressante, là, avec du sirop de glucose-fructose, de l'huile de panne modifiée, et puis des additifs là, comme le propionate de scie puis le sorbate de soufre. Donc, ça lui a fait perdre quelques points ici aux yeux de Mme Huot.
Ça arrive une fois par année.
C'est la conclusion
de
l'article. Oui. La bûche au chocolat blanc croustillant, poire et canneberge de 3 fois par jour, c'est aussi un bon compromis.
Ah, moi, j'aime pas. Contre... Aimez-vous le chocolat blanc, vous, Isabelle?
Moi, j'adore ça, pour vrai.
Oui. Mathieu n'a pas l'air d'aimer ça, moi non plus.
Mais ça goûte pas le chocolat, c'est peut-être pour ça que je dis ça.
Non, ça goûte, on dirait, la margarine sucrée. Qu'est-ce que vous avez dit, Mathieu?
Ça goûte le remords.
Le remords. Le remords.
Oui, R-E-M-O-R, le remords. Le remords.
Il y a beaucoup de chocolat qui goûte ça, je pense. Ça dépend pourquoi on le mange.
Elle n'a pas l'air d'être très, très abordable non plus, hein? Je vois
les... c'est ça, la photo, c'est ça que j'allais dire. Je vois, celle-là, le prix sur la photo, puis à 25,99 pour une douche, ben écoutez. Oui. Mais comme vous dites, ça arrive juste une fois par année, hein, pour se gâter un petit peu. Mm-hmm. Donc, elle ressemble beaucoup à la douche Godiva. Donc, elle a un nombre de calories, de sucre et de sodium qui sont à peu près équivalents. Et mais, malheureusement, elle a aussi la même quantité de gras saturé, donc 8 grammes. Puis, mais par contre, un moins grand nombre de moins grande quantité de gras total. Donc, c'est ni les mauvais, ni les meilleurs choix, mais encore une fois, là, il y a une liste d'ingrédients assez longue avec du sirop de maïs, du chlorure de calcium, sorbate de potassium, etc.
Bon, alors pour ceux et celles qui aiment le chocolat blanc, qui est fait à partir de beurre de cacao?
Et aux poires aussi. Moi, j'adore les poires.
Ah, les poires, oui. Poire et chocolat, c'est tellement bon.
Ben c'est ça, c'est un bon mélange. Et puis, ben si dans les moins bons choix, ben il y a la bûche des fêtes Vachon.
Elle est très populaire, celle-là. Hein? Il y en a qui l'achètent parce que c'est une tradition. Là. Ça
ben,
existe
oui,
depuis
ça,
des
Vachon.
Siècles.
C'est agréable avec dessert au Québec, en Vachon. Donc, mais elle m'a fait découvrir la différence entre l'huile de palme et l'huile de palmiste parce que c'est tous les deux dans les ingrédients. Je ne m'étais jamais posé la question, mais la différence entre les deux, est-ce que vous le savez?
Non. Je pense qu'on va le savoir bientôt. C'est quoi?
C'est fait à partir du fruit. Oui. L'huile qui est extraite du fruit, puis l'huile de palmiste, c'est extrait du noyau, mais du même arbre que le palmier
bon,
à l'huile.
D'accord.
Ouais,
le noyau pour l'huile de palmiste et le fruit pour l'huile de palme.
Et le gras est beaucoup plus de gras saturé dans l'huile de palmiste. Donc, c'est vraiment le pire choix en huile selon le site de l'épicerie.
On l'a acheté une fois dans notre famille et puis on l'avait trouvé extrêmement sucré.
Effectivement, c'est la plus riche en sucre. 45 grammes de sucre par portion. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Puis il y a aussi Chocolat Favori qui fait une bûche chocolat dulce de leche, qui est très riche en tout, là, en sucre.
La totale.
En fait, en sucre, elle a moins de sucre que la bûche Vachon, seulement 20 grammes, mais elle a 23 grammes de gras, dont 12 grammes de gras saturé. Et puis, c'est ça. Elle a, plein d'ingrédients que vous allez peut-être...
Elle est riche, mais moins sucrée que la Vachon.
Mais comme je disais, Mme Huot termine en disant « La bûche de Noël fait partie des traditions et a nul besoin de s'en priver. C'est surtout là pour procurer une bonne dose de plaisir. Une part suffit à combler notre désir de douceur sans trop nous alourdir et il faut la déguster en pleine conscience. »
En pleine conscience, c'est tellement important. C'est comme la poutine, voilà. C'est comme les chips.
C'est ça.
Ouais. Bien, Isabelle, c'était la dernière fois qu'on vous parlait en 2022.
Ben oui, je ne peux pas être là la semaine prochaine, alors je vous souhaite déjà un joyeux Noël.
Ben oui, c'est pour ça qu'on vous a laissé toute la place.
Ben, vous êtes bien gentil. Alors, on se souhaite d'être en santé l'année prochaine.
Ah, certainement. C'est la chose la plus précieuse. Isabelle, merci, joyeuse fête, puis on se retrouve en 2023.
À l'année prochaine.